SBS Radio.
Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir notre ancienne collègue Daniel Kemp sur les ondes de Radio SBS. Bonjour à vous, Daniel.
Bonjour, Jean-Noël. Et c'est un vrai plaisir de revenir à ce qui n'est plus exactement la maison que j'ai connue, mais malgré tout, les gens sont là et la chaleur humaine est là aussi.
Et beaucoup de souvenirs. Daniel, on se rencontre aujourd'hui, c'est le 8 août 2018. On parle de la commémoration de la bataille d'Amiens du 8 au 11 août 1918 et de cette cérémonie qui a eu lieu ce matin au Shrine of Remembrance à Melbourne pour rendre aussi hommage à Sir John Monash.
Et alors là, on rend hommage à quelqu'un qui était totalement exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais citer certains auteurs qui ont beaucoup écrit sur lui et vous donner simplement un petit tour d'horizon des gens qui étaient là. John Heron, qui était dans le gouvernement précédent, the Honourable Minister. Il y avait le Consul de France, Madame Boisbouvier-Wiley. Il y avait Jim Barry, qui est Major General. Il y avait l'arrière-petit-fils de Sir John Monash. Il y avait le Rotary Club de Melbourne. Et il y avait Ted Bellew, qui a été un ancien des premiers du Victoria. Et paraît-il que le prince et son épouse, les nouveaux mariés, sont à Amiens aujourd'hui.
Ah oui, c'était une victoire décisive pour l'armée
Absolument.
Britannique aussi.
Mais naturellement, parce qu'ils ont réussi finalement...
Les Alliés.
Les Alliés ont réussi à rejoindre, à ce que les escadrons et les armées se rejoignent. Et là, ils y sont allés. Mais pourquoi ? Parce que les Australiens avaient nettoyé le terrain. Ils avaient nettoyé le terrain. Ils étaient un tout petit groupe par rapport aux autres. Et à Villers-Bretonneux, et d'ailleurs, c'est très simple, parce qu'il y a... aussi le Premier ministre français qui l'a dit, et il l'a parlé en anglais, il a dit, alors je vous le traduis, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette incroyable solitude qu'il devait ressentir quand il faisait face à la mort, dans un pays qu'il ne connaissait pas, avec lequel il n'avait pas eu de lien précédent, et alors qu'il voyait tomber leurs mates, leurs camarades et leur peuple. Le nord de la France, c'est froid, c'est totalement différent, une végétation différente. Et pourtant, ils ont fait le travail, les trois corps d'armée se sont retrouvés, les Australiens et leurs alliés, et ont infligé une défaite décisive sur l'armée allemande. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, après tant de souffrances, tant de morts, tant de choses détruites, tant de remises en question quant à la bonne façon de faire la guerre, parce qu'ils avaient commencé avec une guerre du 19e siècle, et le grand génie de Sir John Monash, qui est celui qui finalement a été l'architecte de cette victoire, c'était qu'il a réinventé les règles d'engagement. Donc il a mis des tanks pour protéger les fantassins. Il a coordonné l'attaque aérienne avec les attaques sur le terrain. Et littéralement, il a galvanisé un nouvel esprit chez les soldats.
Chez les diggers.
Et les
qui étaient
diggers,
tous des volontaires.
Voilà, et c'est là, il faut jamais... Et ce sont les meilleurs soldats. C'était des engagés volontaires. Tout à fait le contraire de tous les autres. Et ça, il ne faut pas...
Les Canadiens, les Britanniques...
Les Canadiens étaient des engagés volontaires, les pays du Commonwealth aussi, quoique dans certaines anciennes colonies, peut-être qu'il y avait eu un petit peu de pression, on ne peut pas savoir. Mais en tous les cas, c'est les Australiens qui s'étaient engagés. Et on a fait, Jean-Noël, si vous vous rappelez, on a fait cette interview avec John Howard, quand il disait que son père s'est engagé à l'âge de 18 ans.
Avec son grand-père.
Mais alors le père savait que son
fils... Le grand-père était sur le front aussi,
voilà. Alors le père savait que son fils s'était engagé. Et le grand-père, donc le père de John Howard, s'est engagé à l'âge de 50 ans. Et ils se sont retrouvés par hasard à Bullecourt, dehors, sur le trottoir d'une taverne,
ouais.
après des combats
après
incroyables.
Ouais.
Et ils sont rentrés en Australie ensemble. Mais c'était une histoire aberrante. Et quand John Hyde a rencontré Jacques Chirac, quand il est parti en France, il avait été invité, le gouvernement français avait invité le gouvernement australien, Jacques Chirac l'attendait et lui a dit...
Ah, il est à Bretonneux.
Non, il l'attendait à Paris.
À Paris, à l'Élysée.
Bienvenue chez vous, monsieur le Premier ministre. Et ça, c'était... Donc, il savait très bien quelle était l'histoire qui reliait John Howard à la France. Mais il y a toujours eu une amitié avec entre la France et l'Australie. On célèbre aujourd'hui, c'était dans cette année du centenaire, on célèbre le centenaire. Et il y a tout un tas de cérémonies partout, ouais. D'informations, des histoires qui réapparaissent. Parce qu'il y a énormément de gens, quand ils sont rentrés, ils étaient en général malades ou ils étaient affaiblis, ils avaient été endurcis d'une façon...
psychologiquement.
Psychologiquement, ils étaient très, très touchés, très, très affectés. Et il fallait se reconstruire. Et bien souvent, ils ne parlaient pas de ce qu'ils avaient souffert,
de leurs séquelles.
Ouais. Et il y avait des blessures, parce qu'il y a énormément de gens qui sont venus qui étaient véritablement des handicapés.
Qui ne voulaient plus parler de la guerre. Parce que vous et moi-même, on avait fait des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la guerre du Vietnam, et les gens ne voulaient plus parler du passé.
Non, ils souffraient trop. Et parmi les déportés, et d'ailleurs c'est une chose que m'avait confiée Simone Veil, elle m'avait dit, elle parlait parce qu'elle pensait, premièrement elle était très forte mentalement et elle avait vu sa mère mourir, sa sœur, je crois, était rescapée, et elle aussi. Mais en même temps, il faut en parler, autrement, on va oublier
l'horreur. Le devoir de mémoire, pour certains.
c'est le devoir de mémoire. Oui, c'est le devoir de mémoire qui est absolument essentiel pour ceux qui ont survécu. Parce qu'il faut dire l'horreur, autrement, personne ne nous croira.
Et sinon, l'histoire se répète.
Oui, mais oui, absolument. Les gens ne voulaient... Est-ce qu'on va croire qu'on met les gens dans les fours et qu'on allume le four? On parle du XXe siècle là.
Ouais.
Les gens n'y croyaient pas. Et elle dit il faut témoigner. Ouais. Il faut témoigner pour que ça n'arrive plus. Et finalement ça arrive d'une autre façon maintenant et avec une autre...
Oui, la barbarie qui continue.
La barbarie continue et c'est la barbarie islamiste en ce cas. Mais ce qui était intéressant aussi, elle était plus jeune. Elle avait excusez-moi, c'était le vent froid ce matin quand j'étais au Shrine.
C'était à l'extérieur ou...
C'était à l'intérieur, mais pour y aller, tous les vents possibles et imaginables.
En plein hiver.
c'était très important qu'elle n'a pas été... Parce qu'elle a tellement bien réussi sa carrière, c'est parce qu'elle tenait, elle se concentrait énormément, elle s'empêchait de parler trop. Elle ne parlait pas trop émotionnellement. Elle parlait guerre, elle parlait crime contre l'humanité, elle parlait la souffrance des gens. Mais Roosevelt a été très très important, a été aussi très important dans ce devoir de mémoire. Quand les Américains parce qu'on leur disait déjà depuis longtemps qu'il y avait des ghettos, qu'il y avait là, et qu'on exterminait les gens. Il n'y croyait pas vraiment parce que, je crois que ça dépasse l'entendement. Eh bien, Roosevelt a dit à ses soldats, premièrement, vous ramenez tous les villageois. Et dans tous les villages à côté desquels il y avait eu des camps de concentration, et que tout le monde disait, ça n'existe pas, on n'a pas vu, on n'a pas entendu, on n'a pas senti, des corps qui brûlent, on n'a pas senti, d'accord. Il a dit, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils sentent, il faut qu'ils prennent conscience. C'est leur, c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui ont laissé faire. Mmh. Et il a fait prendre des photos, littéralement transformer sa troupe qui était autour de lui. Il y avait ceux qui protégeaient et il y avait des photographes qui prenaient des clichés de tout ce qu'ils ont vu dans les camps. Parce qu'il dit, personne ne nous croira. Et en même temps, le massacre aussi des prisonniers militaires, d'autres nationalités, hein, ça c'était contre les conventions de Genève, comme le Japon aussi. Le Japon, en traitant les prisonniers australiens et américains de la façon dont il les a traités, a littéralement emmené sur lui l'horreur d'Hiroshima. Et là, ils se sont arrêtés, parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer. Les traités ont véritablement une valeur et une puissance très limitée.
Daniel, on revient sur Sir John Monash parce que
oui.
Je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent. Parce qu'on a l'université de Monash qui a été, je crois, créée en 1958. Mais Sir John Monash, c'est quelqu'un de, comme vous le dites, quelqu'un qui a réalisé ses victoires sur le front occidental.
Non seulement
militaire.
Militaire, c'était un ingénieur d'une part.
Ingénieur d'abord.
Mais il ne faut pas oublier, c'est un homme de la Renaissance. Il était mélomane, il parlait plusieurs langues, il était juif allemand. Et d'ailleurs...
Les parents se sont établis à Melbourne.
Il est allé à Scotch College avec une bourse.
Ouais.
Parce que justement, c'était, c'était la première manifestation de ces étrangers qui quittaient l'Europe. Et c'était au 19e siècle, sa fin du 19e siècle, et qui s'installaient en Australie. Ils étaient très peu nombreux en Australie et ils devaient de toute façon s'adapter. Excusez-moi. Mais dans le cas de Sir John Monash, on se dit, et d'ailleurs c'est une de mes questions, comment quelqu'un qui était finalement très très civilisé, très cultivé, très axé vers les discussions, les échanges, l'intellectualité, s'est retrouvé tout d'un coup face à une sorte de déni, de défi qui dépassait tout le monde et qui dépassait les généraux de métier. Et c'est là qu'il a complètement changé les règles d'engagement.
Il y a eu l'offensive du Hamel, c'était en juillet 1918. Donc, ils ont gagné cette bataille en 92 minutes.
Oui.
Grâce à Sir John Monash.
Grâce à Sir John. Il a fait deux choses. Premièrement, il était un réserviste.
Ouais.
Donc, il s'intéressait à la chose militaire et à la chose combat. Il a complètement repensé les termes d'engagement. Donc... Les tanks protégeaient les fantassins et protégeaient l'artillerie. Donc, il y avait l'artillerie qui était derrière les fantassins et qui visait, au contraire, des agressions possibles sur les flancs et à l'arrière. Et il y avait les tanks qui ouvraient le chemin. Et puis, il a coordonné le combat sur terre avec le combat aérien. Donc, les Allemands se sont retrouvés dans un étau. Et ça a été une victoire. En même temps, c'était la fin de la guerre. Tout le monde était épuisé, de toute façon. Il fallait que ça aille vite. Parce que les pertes étaient incroyables. Et là, littéralement, il a réinventé les termes d'engagement.
Et même les Britanniques n'y avaient pas pensé.
Là, c'était là où il est absolument exceptionnel. Quelqu'un qui vient d'un milieu où la guerre n'est...
Les Britanniques le respectaient ?
Oui. Ils ont été obligés. Et la réussite est le meilleur médicament, le meilleur onguent et la meilleure preuve.
Et à son retour en Australie après la guerre, il était en charge, je crois, du State Electricity Commission du Victoria.
Oui, et c'était intéressant parce qu'il a eu plusieurs carrières. Avant la guerre, c'était un ingénieur. Il avait fait plusieurs monuments et plusieurs
responsable de certains ponts
À Melbourne, etc. C'était quelqu'un qui était reconnu comme ingénieur. C'était quelqu'un qui... il était réserviste par envie. De servir son nouveau pays parce qu'il venait d'Allemagne, etc. Au départ, rien ne présumait qu'il allait s'engager. Et puis finalement, il était d'un esprit très pratique et les hommes le respectaient. Ces hommes réservistes le respectaient. Les réservistes, c'est littéralement... je dirais l'insigne d'excellence, c'est l'insigne aussi de, je ne dis pas supériorité, mais c'est des gens qui sont prêts à se sacrifier pour les autres et à s'engager, quitte même à mourir, mais pour faire quelque chose pour leur communauté, leur peuple, le reste de la population, par idéal, il a fait respecter le fait que ces hommes étaient des réservistes. Et seuls les Canadiens, les Néo-Zélandais et les Australiens étaient selon mes dires, hein, selon ce que j'ai entendu dire, c'était les seuls volontaires, les engagés volontaires de la guerre. Mais Monash aussi est connu par « je préfère marcher sur les pieds d'un gradé et d'un général et de me disputer avec les politiques plutôt que de perdre un soldat ». Alors après, bien souvent, il y a eu des engagés volontaires qui, après avoir fauté sur le champ de bataille, avaient la chance, soit le poteau d'exécution ou la bataille. Mais ce n'était pas dans les rangs australiens que ça arrivait, enfin très, très rarement. C'est arrivé surtout à la guerre des Boers. Parce qu'il y a eu, quand même des fautes dans le système. Et c'était la première fois que les Australiens faisaient une guerre à l'extérieur de l'Australie. Mais c'était quelque chose d'incroyable. Et aujourd'hui, naturellement, c'est l'anniversaire. D'ailleurs, ce discours où participaient tellement de gens, j'ai fini par dire tout simplement aujourd'hui, « Today and for the rest of the year, we commemorate the exceptional Australian and the brave men who fought with him. » Donc, il n'y en a pas, il y a pas un deuxième John Monash. Par contre, il a laissé des descendants. Il a laissé le nom à une université.
Il était aussi vice-président de l'université de Melbourne.
Absolument.
À son retour en Australie après la guerre.
Et une chose qu'il faut dire, parce que l'exception de l'Europe, c'est vrai qu'en Europe, ils avaient des plus grandes masses de population, mais dans les pays neufs, ceux qui s'étaient engagés, qui étaient des engagés volontaires, qui s'étaient battus pour la liberté, quand ils rentraient, ils avaient la priorité à l'emploi. Et il était un des architectes de la priorité à l'emploi pour ces diggers qui, bien souvent, revenaient avec des blessures de guerre.
Traumatisés.
Totalement traumatisés. Et leur famille avait été séparée d'eux et retrouvée un étranger quand ils rentraient.
Ouais.
Quand ils rentraient. C'était surtout ça. Et ça, c'est une chose que dans la famille de mon mari, ça s'est vu aussi. Son grand-père était un chirurgien, et était docteur et chirurgien. Il a commencé son entraînement réel à Gallipoli, donc c'était le baptême du sang. Et il a continué sur le front dans la Somme. Et c'était quelque chose où, justement, à cette bataille de...
Damien
Oui, eh bien, son grand-père s'est distingué parce que, après ça, les chirurgiens étaient... Alors, quand il rentre en Australie, son grand-père a dit, maintenant, je voudrais... Il s'appelait Arthur Wilson, Dr. Arthur Wilson, il est devenu une légende. Il dit, maintenant, je ne veux plus... voir la mort. Je ne veux plus voir la mort ni la guerre. Je vais me concentrer sur la gynécologie qui commençait simplement en Australie. Et il a initié le premier cabinet d'obstétrique en Australie. Et un très grand nombre des gens de l'âge de mon mari, par exemple, sont venus au monde grâce à Dr. Arthur Wilson, devenu une légende, et on parle de lui. Et il a obtenu, justement, à Villers-Bretonneux, il a obtenu une médaille pour le courage, parce qu'il était dans le sang, littéralement, pendant des semaines et des semaines pour essayer de sauver les vies de ces diggers.
Et Daniel, on imagine que d'autres commémorations auront lieu dans les mois à venir, jusqu'en novembre prochain.
Oui, alors Jean-Noël, j'en ai parlé avant, mais je crois qu'il faut le répéter. L'Assemblée des Français de l'étranger a décidé cette année qu'on allait prendre un thème en particulier, et dans l'année du centenaire de la Grande Guerre, où tous les pays du monde étaient affectés, était la guerre mondiale, eh bien, ça a été le thème.
Et alors, merci l'Australie.
Merci l'Australie. Alors, il y a un très, très beau, vraiment une très belle planche qui a été créée par Atout France et qui nous a donné les droits de pouvoir l'afficher là où on pense qu'elle sera vue par beaucoup. Et c'était, on voit les diggers et on voit aussi Cobba, qui est la statue de cet homme qui allait chercher les blessés derrière les lignes et les ramener derrière les lignes alliées et qui a survécu. Et donc, c'est là où on s'aperçoit, avec nos collègues de tous les pays du monde, tous les continents sont représentés, que ça a été une guerre mondiale.
Et il y a une statue à, au Shrine of Remembrance pour, oui, pour se souvenir.
Pour se souvenir. Et ça, je crois que je conseille à tout le monde d'y aller. Le Shrine of Remembrance, en Australie, particulièrement à Melbourne, a fait des efforts énormes pour un travail de mémoire et un travail aussi pour les générations futures. Donc les écoles visitent et il y a il y a des programmes, il y a des livrets, il y a des objets, il y a des photos, il y a
des beaucoup
films,
d'expositions.
Beaucoup d'expositions. Et chaque année, on trouve plusieurs thèmes d'exposition. Et puis, peut-être dans les vides-greniers, tout d'un coup, des descendants
découvrent
des choses et se disent « bon, ben, ça appartient à quelque chose qui est beaucoup plus grand que notre famille ». Et donc, il y a des photos…
Donc, ils font des dons au Australian War Memorial.
Et ça, et voilà. Et ils le donnent, ils font des dons. Oui, bien souvent, c'est mis c'est les dernières volontés des personnes qui tombent. Mais ce qui est formidable, il n'y a pas de culte de la guerre. Il n'y a pas du tout de culte de la guerre. Au contraire, c'est le culte du courage devant la fatalité, devant le malheur, devant la souffrance, devant des situations qui sont inhumaines. Et je crois que les Australiens, bon, il y a eu des erreurs, il y a eu des excès, mais en général, les Australiens ne vouent pas un culte à la guerre, loin s'en faut. Et quand on parlait justement du Vietnam, ceux qui sont revenus du Vietnam n'ont pas eu l'honneur d'être reconnus que, premièrement, c'était le seul moment en Australie où il y avait une conscription selon les dates de naissance, et les gens y échappaient ou y participaient. C'était une guerre qui était menée par l'Amérique, principalement. Et quand ils sont revenus, au lieu de traiter ces hommes comme des hommes qui avaient souffert, qui avaient été forcés, parce qu'on se retrouvait littéralement dans le schéma européen et américain, on ne s'en est pas très bien occupé. Au contraire, on les ignorait. Alors, ignorer la souffrance, c'est s'assurer qu'elle ne guérira pas. Et ça, c'est une chose qu'on a appris dans la douleur.
Daniel, merci d'être venu nous rendre visite à SBS et à une prochaine fois.
Et une prochaine fois, et je vous tiens au courant de tous les projets qui sont en cours, et j'incite absolument tous ceux qui s'intéressent à la guerre, tous ceux qui ont des souvenirs de famille, etc., de visiter le War Memorial, quel que soit l'état où ils sont. C'est vraiment quelque chose qui, ce n'est pas aimer la guerre, c'est au contraire rendre hommage à ceux qui ont souffert et ceux qui ont tenté de la terminer.
Merci à vous.
Merci à vous. sbs.com.au